L'ancien journaliste au soir, Ricardo Gutiérrez, est devenu en 2013 le secrétaire général de la FEJ, la Fédération européenne des journalistes. La FEJ représente 320 000 personnes dans 43 pays. Ricardo Gutiérrez est aussi membre du Conseil de déontologie journalistique des médias francophones et germanophones de Belgique. L'enregistrement qui va suivre est une conférence de presse simulée où tout le contenu est vrai et donné dans le cadre d'un exercice à des étudiants en journalisme où Ricardo Gutiérrez intervient comme assistant pour la formation à l'écriture journalistique à l'ULB. La conférence de presse était basée sur un communiqué de presse réel qui a effectivement été diffusé aux médias durant la vague de répression que l'État turc a renforcée en mai 2017 contre les journalistes et les magistrats turcs. Vous êtes le 15 mai 2017 au département des sciences de l'information et de la communication de l'ULB. Vous êtes étudiante ou étudiant en journalisme, vous assistez à une conférence de presse sur des faits réels et vous avez pour tâche de rédiger un article résumé dans les 2 heures qui suivent la conférence.
Alors, pour jouer pleinement le jeu, je vais vous expliquer dans quel cadre, dans quelle pièce vous jouez. Parce que les journalistes qui participent à une conférence de presse, eh bien, au minimum, ils ont reçu évidemment l'invitation à participer à cette conférence de presse. Et donc, leurs médias, ils ont déjà discuté en interne avec leur chef de service. Salut Philippe. Ils ont déjà discuté avec leur chef de service ou le rédacteur en chef de l'intérêt potentiel de la conférence de presse. Certains d'entre eux, les plus affûtés, ont déjà donné des coups de fil pour essayer d'en savoir plus sur le contenu de la conférence de presse et déjà un peu prévoir l'importance que, par exemple, dans un quotidien, on va réserver à une conférence de presse. Les conférences de presse se tiennent beaucoup vers 11h du matin. En fin de matinée, et donc c'est déjà un moment où la rédaction en chef commence à imaginer le journal du lendemain, et donc il est bon déjà de savoir, tiens, est-ce que cette conférence de presse qui va intervenir à 11h du matin, est-ce qu'elle risque de changer, je dirais, la configuration de la une du journal qu'on est en train de réfléchir, d'imaginer déjà. Et donc voilà, il y a toujours des démarches préalables à la conférence de presse possibles par les journalistes. Souvent, un journaliste invité à une conférence de presse, il essaye déjà d'en savoir plus, en donnant des coups de fil, en se renseignant sur le sujet. Mais en tout cas, ici, vous êtes tous là parce que vous avez reçu une invitation de 3 organisations, en fait. La conférence de presse est organisée par 3 organisations, qui sont la Fédération européenne des journalistes, dont le secrétaire général s'appelle Ricardo Gutiérrez, vous le connaissez un peu. C'est lui, en fait, qui va tenir le crachoir parce que les représentants des 2 autres organisations n'ont pas pu se libérer. Et les 2 autres organisations sont l'Association européenne des magistrats. Alors, c'est un peu l'équivalent de la Fédération européenne. Donc là, je vous explique des choses. C'est de la cuisine interne. Vous êtes déjà renseigné là-dessus puisque vous avez reçu cette invitation officielle par mail il y a 2 jours. Donc la Fédération européenne des journalistes, vous le savez, c'est l'association professionnelle des journalistes en Europe. Groupement qui représente les organisations de journalistes en Europe. L'Association européenne des magistrats, comme son nom l'indique, c'est un peu l'équivalent, mais pour les juges. Donc c'est une organisation européenne qui représente les personnes qui ont pour profession de rendre justice. Et la troisième partie prenante de cette conférence de presse, c'est le Conseil des barreaux européens. De nouveau, ce n'est pas une surprise, c'est l'organisation professionnelle représentative des avocats, en fait. Donc en fait, si je résume, ces 3 professions sont représentées au niveau européen et qui ont convoqué une conférence de presse sur la situation en Turquie. Parce que toutes les 3 sont concernées, évidemment, par la situation des droits de l'homme et de l'état de droit en Turquie. Ça, c'est le cadre. Donc quand vous arrivez à la conférence de presse, vous savez qu'on va parler de ça. Mais les 3 organisations ont juste dit qu'elles allaient faire une déclaration commune. Et donc moi, je suis là pour vous présenter cette déclaration commune et puis pour répondre à vos questions. Et donc je joue mon propre rôle en introduction, vous dire que ceci est totalement vrai. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui et les réponses que je vais vous donner, je ne vais pas les inventer. Ça va être presque pas une fausse conférence de presse, mais il est un fait que cette déclaration commune, on l'a publiée ensemble il y a quelques jours maintenant, mais on n'en a pas fait une conférence de presse. Donc, mais Donc le sujet, la matière que vous traitez, c'est de la vraie matière. Et les questions que vous allez me poser, je vais vous répondre avec de vraies réponses qui correspondent à des vrais faits, des vrais éléments d'actualité. Comme ça, vous connaissez le cadre. Hein ? Et maintenant, on va pouvoir commencer cette... Cette conférence de presse, eh bien, je tiens d'abord à remercier la presse, les médias, les journalistes pour leur présence massive à cette déclaration commune de trois organisations professionnelles à l'échelle européenne. Je tiens à vous remercier parce que c'est une démarche peu banale. C'est la première fois dans l'histoire de ces trois organisations représentatives, donc des journalistes, des avocats, et des juges, que nous avons souhaité faire une déclaration conjointe. Alors, vous le savez, la Fédération européenne des journalistes, elle représente 320 000 journalistes dans 43 pays en Europe. C'est la principale organisation représentative des journalistes en Europe. L'AEM, l'Association européenne des magistrats, c'est un peu l'équivalent pour les juges. Elle représente des milliers de juges dans 44 pays européens. Et le Conseil des barreaux européens, qui vous invite également à cette déclaration commune, qui participe à cette déclaration commune, est l'équivalent des deux associations que je viens de nommer pour les avocats. Le CCBE représente plus d'un million d'avocats dans 45 pays européens. Donc, je vous parle bien ici de l'Europe continentale, hein. Ce n'est pas l'Union européenne, ce sont des organisations qui sont toutes les trois actives à l'échelle du continent européen. Et vous le savez, on vous a invité à propos de la situation en Turquie. Vous savez que depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, le gouvernement turc a décrété l'état d'urgence. Cet état d'urgence vient d'être prolongé à nouveau pour 3 mois. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au cours de cette longue période d'état d'urgence, le gouvernement a adopté 21 décrets-lois qui ont tous porté gravement atteinte aux droits de l'homme et à l'état de droit dans le pays. Et c'est ce qui justifie la déclaration commune que font aujourd'hui les représentants, les organisations représentatives officielles des journalistes, des avocats et des juges qui souhaitent tous condamner ici, devant vous fermement, la persécution générale qui est exercée actuellement en Turquie à l'encontre des avocats, des journalistes et des magistrats. Alors, vous le savez, des milliers de juges et de procureurs, des centaines de journalistes et d'avocats ont été licenciés, détenus ou arrêtés par les autorités. On peut vraiment parler d'un état de censure généralisée des médias qui a été mis en place par le gouvernement. Des centaines d'organisations de la société civile ont été fermées de force et sans préavis par le gouvernement. Plusieurs associations d'avocats et l'association indépendante des magistrats turcs, l'association Yarsav, ont été fermées. Et les avoirs de ces organisations ont été saisis ou gelés sans aucune compensation. Alors, pour vous donner quelques chiffres qui éclairent la situation, à l'heure actuelle, aujourd'hui en Turquie, environ 2000 juges et procureurs sont en détention. Alors, plus de 4000 d'entre eux ont été destitués, mais sur les 4088 juges et procureurs destitués, 2000 sont en prison. 145 journalistes sont en prison. Ces professionnels, des centaines d'avocats sont également en détention actuellement. Ces professionnels sont tous en prison pour avoir simplement effectué leur travail, leur métier. Ils sont essentiellement détenus sur base d'accusations de prétendu soutien à des organisations terroristes, en l'occurrence le mouvement Gulen, que l'on accuse d'avoir ourdi le coup d'État raté du 15 juillet. Beaucoup d'entre eux sont inculpés, vous devez le savoir, sont détenus, vous devez le savoir, sans avoir été inculpés. Et sans avoir même comparu devant un magistrat. En fait, la législation sur l'état d'urgence permet à la police d'effectuer ces détentions, ces mises en détention sans intervention judiciaire. Dans certains cas, il est vrai que les tribunaux turcs interviennent et parfois valident, confirment un mandat d'arrêt. Dans la plupart de ces cas, vous devez savoir qu'ils ordonnent généralement le gel des biens des détenus, ce qui rend ces personnes en détention particulièrement vulnérables. Ils se trouvent dans une situation où ils sont incapables de subvenir aux besoins de leur famille d'abord, mais aussi simplement d'assurer leur défense. Vous devez savoir que beaucoup d'avocats qui étaient spécialisés dans la défense de la liberté d'expression sont eux-mêmes en prison et beaucoup de journalistes détenus ont du mal aujourd'hui à se faire représenter, à trouver un avocat qui puisse les défendre. Alors, c'est ce qui a incité quelque part les trois organisations signataires de l'appel d'aujourd'hui à faire une déclaration commune, de manière un peu solennelle. Je vous le disais, c'est la première fois dans l'histoire de ces organisations, qui ont parfois plusieurs dizaines d'années d'existence derrière elles, c'est la première fois qu'ensemble, elles ont décidé de faire une déclaration commune. D'abord, pour rappeler que la magistrature est une composante essentielle de l'état de droit. Dans une société libre, il faut garantir l'indépendance de cette magistrature. Pour rappeler aussi que les avocats jouent un rôle fondamental dans une société, dans la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et pour rappeler évidemment que les journalistes sont eux-mêmes, vous le savez, vous exercez ce métier, les chiens de garde de la démocratie, et que sans contrôle par les médias, eh bien, le pouvoir peut se livrer aux pires outrances sans jamais faire l'objet d'une dénonciation, d'une mise en cause. Alors, vous le savez, nous ne sommes pas les seuls à protester. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muchnick, a publié récemment un mémorandum qui accuse le gouvernement turc d'abuser de certaines législations, et je pense ici aux législations antiterroristes. Et le commissaire aux droits de l'homme constate que le gouvernement turc applique de manière bien trop large les notions de propagande terroriste et de soutien à une organisation terroriste. Ce sont des charges que l'on retrouve souvent à l'encontre des journalistes inquiétés, des avocats inquiétés. Il y a manifestement un abus de la part du gouvernement turc dans l'usage de ces charges, de manière à faire taire toute opposition, tout contre-pouvoir. Alors, notre déclaration, elle se limite à quelques constats, quelques appels précis au gouvernement turc. Concrètement, un, nous exhortons le gouvernement turc à restaurer un système judiciaire indépendant, qui soit conforme à l'état de droit. Deux, nous demandons au gouvernement turc de garantir la liberté d'expression et des médias dans le pays, de faire prévaloir l'état de droit et la démocratie. Et ça passe pour nous par une exigence principale, c'est la libération de tous les juges, de tous les procureurs, de tous les avocats et de tous les journalistes qui sont aujourd'hui détenus à nos yeux de manière indue, juste pour avoir exercé leurs activités professionnelles. Voilà, c'est une déclaration ferme de la part de nos trois organisations qui ne sont pas des organisations politiques. Ni la FEJ, ni l'AEM, ni la CCBE n'ont pour habitude de prendre des positions politiques. Nous sommes ici en défenseurs de professions qui défendent elles-mêmes l'état de droit, les droits de l'homme, la justice, l'indépendance des médias. Et c'est à ce titre que nous intervenons pour demander au gouvernement turc de mettre un terme à l'état d'urgence et aux extrémités qui s'en suivent. Merci pour votre attention. Au nom de la Fédération européenne des journalistes et des deux associations qui co-signent cet appel, je suis à votre disposition pour toute question, remarque, interpellation. Oui ? Je vous demanderai de vous annoncer, de dire pour quels médias vous travaillez d'abord.
Je travaille pour l'UNB.
Médias importants.
Moi, je voudrais savoir pourquoi en réalité vous faites cette conférence de presse, parce que vous voulez interpeller l'État turc, qui bien sûr n'a pas écouté, et ils sont complètement. Parce que plus haut que vous, il y a la Merkel européenne qui est venue ça toutes les semaines. Quel message vous avez derrière, ou quelle arrière-pensée vous avez derrière?
Alors, c'est une bonne question, parce que effectivement. Notre message est adressé au gouvernement turc, mais il s'adresse en même temps à toute autre autorité publique, intergouvernementale ou autre, qui pourrait avoir une influence sur ce débat, cette situation. La Turquie est membre de l'OTAN, la Turquie est membre du Conseil de l'Europe, et la Turquie est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et donc toutes ces instances, la Commission européenne, le Parlement européen, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe à Strasbourg, l'OTAN, toutes ces organisations ont un pouvoir d'influence possible sur la Turquie. Et donc vous avez raison. Le message, nous l'adressons au gouvernement turc parce qu'il est le premier responsable de ces abus, mais nous l'adressons en même temps, en tant qu'organisation professionnelle européenne, à toutes les instances politiques qui, en Europe, pourraient avoir une influence sur cette situation. À titre personnel, là je ne parle pas au nom des magistrats et des barreaux européens, donc des avocats, mais au nom des journalistes, la FEJ a de son côté déjà dénoncé à plusieurs reprises le mutisme, la passivité de la Commission européenne dans cette affaire. Vous le savez, il y a un deal que l'on trouve, nous, honteux avec la Turquie. La Commission européenne a passé un deal en demandant à la Turquie de prendre en charge les flux de réfugiés transitaient par la Turquie pour se diriger vers l'Europe. Et en échange de ce deal, en quelque sorte, la Turquie est laissée indemne. Le gouvernement turc, on a le sentiment qu'il peut faire ce qu'il veut, que l'Union européenne ferme les yeux, parce qu'elle a intérêt pour le moment à ne pas gêner le gouvernement turc, dans le sens où le gouvernement turc s'est engagé à accueillir chez lui, et donc il y a des camps de réfugiés, vous le savez, massifs, hein, donc en Turquie, qui font en sorte que les flux de réfugiés ne transitent plus dans la Turquie vers l'Europe. Et donc je pense que c'est une des explications, une des causes en tout cas du mutisme de l'Europe que nous tenons ici à dénoncer, que la Fédération européenne des journalistes en tout cas a déjà elle-même de son côté dénoncé. Donc le message, pour répondre clairement à votre question, notre message s'adresse aussi à ceux qui peuvent avoir une influence au niveau politique en Europe. Oui ?
Oui, après-midi, Washington Post.
Même la presse américaine est là.
Est-ce que les menaces concernant justement les journalistes et les magistrats et les juges, et les avocats, concernent également la peine de mort ?
Alors, vous le savez, le président Erdogan a annoncé qu'il avait l'intention de soumettre la question de la peine de mort à un référendum. On a eu des allées et venues sur cette question-là. Donc pour le moment, il n'y a pas de référendum annoncé clairement, programmé, avec une date précise sur la question, mais ça a fait partie de sa campagne. Lors de la campagne pour la révision de la Constitution, c'est un des éléments qu'il a annoncé. Je constate que jusqu'à présent, il n'est pas passé à l'acte de ce point de vue-là. Il faut savoir que si la Turquie remet en cause l'abolition de la peine de mort, elle sortira automatiquement du Conseil de l'Europe. Donc il y aura une sanction là, immédiate de la part du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je ne suis pas persuadé que la Turquie ait nécessairement envie de se couper sa possibilité d'influer sur la politique menée par le Conseil de l'Europe et d'être exclu, d'être mis au banc du Conseil de l'Europe. Donc nous sommes prudents, nous attendons. Évidemment, si Le président Erdogan franchit ce cap, nous le dénoncerons et nous demanderons au Conseil de l'Europe d'exclure automatiquement la Turquie du Conseil de l'Europe. Mais on est un peu dans l'expectative, puisqu'il l'a annoncé, mais dans le cadre d'une campagne électorale. Comme vous le savez, dans les campagnes électorales, on fait beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de promesses aussi, et qui ne sont pas toujours suivies d'effets. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de raison de croire que le sujet soit vraiment officiellement mis à l'ordre du jour. C'est pourquoi nous nous focalisons sur ce qui est une réalité. Les journalistes, les avocats et les juges en prison, ça c'est une réalité que nous dénonçons et pour laquelle nous demandons qu'il y soit mis un terme immédiat. Ça ne nous empêchera pas à l'avenir de dénoncer de nouvelles atteintes aux droits de l'homme et notamment la possibilité pour la Turquie de renoncer à l'abolition de la peine de mort. Mais ce n'est pas l'actualité pour nous. C'est pourquoi nous n'en parlons pas dans notre déclaration commune. Vous savez, il y a déjà des choses assez graves à gérer comme ça. Pour parler du cas de certains des journalistes détenus, on a suivi récemment, on a envoyé un observateur récemment à Adana pour suivre le procès d'un journaliste qui était poursuivi et qui est en détention pour avoir retweeté 2 tweets. Retweeté, donc c'est même pas des tweets qu'il a lui-même écrits. Donc il y a aujourd'hui des journalistes en prison parce qu'ils ont relayé des tweets et on les accuse de propagande terroriste parce que ces tweets sans doute n'arrangeaient pas le gouvernement. Mais donc la situation est déjà grave aujourd'hui. On n'a pas besoin d'agiter le spectre de la peine de mort qui sera abolie peut-être dans les mois qui viennent. Déjà aujourd'hui, il se passe des choses graves en Turquie et ces choses graves méritent une action du gouvernement turc et des gouvernements européens.
Est-ce que, Arnaud Delarache de France Inter, est-ce que votre conférence commune ne démontre pas une sorte d'acharnement à l'égard du gouvernement turc ?
Alors, c'est peut-être ce qui va nous être opposé, mais j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Nos organisations, elles ne sont pas politiques, nous avons des membres. Chacune de nos organisations a des membres en Turquie. On travaille avec la société civile turque, avec les professionnels turcs. Donc nous ne sommes pas des ennemis de la Turquie, puisque nous avons, pour parler de la Fédération européenne des journalistes, nous avons 2 syndicats et 1 association de journalistes implantés en Turquie, avec qui nous travaillons, avec qui nous développons des projets. Donc on ne peut absolument pas nous taxer d'être des ennemis de la Turquie. On est au contraire des gens qui coopèrent, qui collaborent avec la société civile turque, avec les journalistes professionnels en Turquie. Et donc il ne s'agit absolument pas de notre part de prendre, je dirais, une attitude politique, quel que soit le parti qui aurait pris les mesures qu'on est en train de prendre aujourd'hui en Turquie, on l'aurait dénoncé de la même manière. Que ce soit l'AKP au pouvoir ou tout autre parti, on l'aurait dénoncé de la même manière. Donc il n'y a pas chez nous d'acharnement vis-à-vis d'un gouvernement en particulier. Il y a un acharnement vis-à-vis de pratiques que l'on doit dénoncer parce qu'elles portent atteinte à la démocratie. Et donc peu importe, je dirais, l'auteur de ces atteintes, nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous sommes des remparts de la démocratie, des remparts contre la dictature, et il est de notre devoir d'intervenir quand on fait face à de telles violations. Oui, peut-être, monsieur, vous avez déjà eu la parole, je pense.
Est-ce que vous avez des connaissances par rapport aux conditions de détention des différents journalistes et magistrats ?
Alors, on a la chance d'être inscrit dans un projet européen qui prévoit notamment l'envoi d'observateurs au procès de journalistes en Turquie. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi 3 organisations membres de la Fédération européenne des journalistes qui sont implantées en Turquie et qui suivent la situation de l'ensemble de ces journalistes. Hein. C'est pourquoi je suis en capacité de vous dire qu'il y a aujourd'hui 145 journalistes en détention en Turquie. Si vous allez sur le site de la Fédération européenne des journalistes, vous retrouverez l'ensemble des noms de ces journalistes. Hein. Donc 145 journalistes, dont 12 femmes d'ailleurs, il faut le préciser. Et donc on suit individuellement, à travers nos membres présents en Turquie, l'ensemble de ces cas. La liste d'ailleurs sur le site de la FEJ est régulièrement mise à jour en fonction des libérations et des réarrestations. On a assisté très récemment à une série de libérations qui se sont suivies par des réarrestations immédiates. Donc un tribunal, une cour déclarait par exemple qu'il n'y avait plus lieu de maintenir en détention tel journaliste et le parquet redéposait immédiatement de nouvelles charges afin de maintenir le ou la journaliste en prison, malgré la décision de la Cour ou du tribunal de libérer le journaliste en question. Donc, quand vous parliez d'acharnement, monsieur, l'acharnement, il vient plutôt des procureurs, donc des magistrats, de certains des magistrats, parce que, je vous l'ai dit, certains autres se retrouvent eux-mêmes en prison. Une des perspectives positives, peut-être, que l'on voit dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme est en train de prendre en considération une série de cas, considérant que la justice n'est plus rendue en Turquie. En fait, vous ne savez peut-être pas, mais la Cour européenne des droits de l'homme n'intervient que quand les voies de droit internes ont été épuisées. Donc quand une affaire en Turquie a été jugée en première instance, en deuxième instance, et puis en cassation, voire au tribunal constitutionnel, à ce moment-là, elle peut venir à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais comme la justice turque ne fonctionne plus, parce que beaucoup de magistrats sont en prison, beaucoup d'avocats sont eux-mêmes en prison, et donc il y a une impossibilité de faire fonctionner la justice turque, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg est en train de réfléchir à une possibilité d'exception à la règle normale, et elle pourrait prendre attitude dans une série de cas, notamment de journalistes. Il y a un cas célèbre, c'est le cas des journalistes des frères Atlan, qui sont en prison depuis le lendemain du coup d'État, depuis des mois, et dont l'affaire n'a toujours pas été jugée. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous a fait savoir qu'elle était prête à prendre en considération leur situation, alors que normalement elle ne pourrait pas le faire, sachant qu'elle ne peut intervenir normalement que quand toutes les voies de droit interne turques donc, ont été épuisées. Donc voilà, il y a, même au niveau des grandes institutions judiciaires internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des magistrats qui sont en train de s'interroger sur la situation en Turquie et qui se demandent s'il n'est pas temps pour eux de prendre aussi leurs responsabilités. Monsieur avait une question et puis je vous passe la parole.
Pierre Chabert, biographie.
Je dois être prudent à l'interprétation de mes propos.
Est-ce qu'il y a des cas de torture ?
Alors, Amnesty International a dénoncé des cas de torture consécutifs à un certain nombre de détentions. Je dois vous dire qu'au niveau de la Fédération européenne des journalistes, des avocats et des juges, nous n'avons pas pu documenter ces cas. Donc nous n'avons pas, nous, de certitude. Je pense que la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est d'interroger Amnesty sur les cas qui ont été mis en évidence par Amnesty. Mais de notre côté, donc pour ce qui concerne les juges, les avocats et les journalistes, nous n'avons pas de cas, en tout cas connus de notre part, de torture. Mais vu la situation d'absence d'état de droit en Turquie, il ne m'étonnerait pas. Je ne serais pas surpris si on apprenait demain que des journalistes, des avocats ou des juges en détention ont souffert des abus, des violences. Ça me paraît dans l'ordre du possible. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de cas avérés à vous soumettre. En revanche, il est vrai qu'Amnesty International a dénoncé ce genre de situation. Avant de vous passer la parole, je pense qu'il y avait une question de mademoiselle, oui. C'est déjà arrivé. Donc, il y a des instances internationales ont déjà passé outre l'obligation qu'il y a pour elles à laisser les voies de droit interne s'épuiser. Donc ce n'est pas une première. Donc on peut imaginer que dans une situation où la justice d'un pays ne fonctionne plus, il est normal que les instances judiciaires internationales suppléent quelque part au manque de fonctionnement normal, logique des voies de droit. Sinon, vous allez avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, vous savez, il y a des journalistes en prison depuis le mois de juillet 2016. Hein, et certains ne savent, à la limite, même pas pourquoi ils sont en prison. C'est une situation de non-droit qu'on ne peut pas tolérer à l'échelle internationale, pas seulement en Turquie, ce qui amène donc la Cour européenne des droits de l'homme à... C'est une procédure d'exception qui existe, hein, donc elle n'est pas illégale, elle ne sort pas des règles de droit applicables au niveau international. Hein. Cette procédure d'exception a déjà été utilisée pour d'autres pays. Oui ?
Tout à l'heure, vous parliez de situation de non-droit en Turquie, mais vous m'avez dit que ce sont des magistrats turcs qui jugent ceux qui sont en prison pour le moment, donc il n'y a pas forcément de non-droit, si tout a été fait dans les règles de la justice. Et par ailleurs, j'ai l'impression que vous placez beaucoup d'espoir en les institutions internationales, notamment la Cour CEDH, sans compter le fait qu'elle avait vraiment de pouvoir coercitif sur les États, et aussi qu'elle a condamné des États comme la France, même justement, ou la Russie, sans qu'il y ait eu de suite. En quoi est-ce que vous pensez que cela sera une exception cette fois avec la Turquie ?
Au minimum, ça va aider à une prise de conscience européenne et mondiale. Si la Cour européenne des droits de l'homme, demain, constate dans l'incarcération des frères Atlan que la Turquie viole le droit national et international, au minimum, ça peut aider une série d'acteurs internationaux qui aujourd'hui se taisent à bouger. Peut-être que ce sera plus compliqué pour le Conseil de l'Europe, pour l'Union européenne, de ne pas bouger si une cour internationale européenne établit ce fait. Il n'y a pas d'exemple. Pour le moment, il n'y a pas de... Les condamnations, elles viennent d'organisations comme les nôtres, mais qui n'ont pas de, je dirais, de portée juridique. Voilà, nous sommes des organisations professionnelles, nous défendons nos membres. On a parfois le sentiment de crier dans le désert par rapport aux autorités politiques. Si une instance internationale reconnue prend attitude par rapport à une violation manifeste de l'état de droit, peut-être que ça incitera les gouvernements européens et les organisations intergouvernementales basées en Europe à réagir. C'est notre espoir.
Mais ces organisations n'auront pas de leçons à donner à la Turquie puisqu'elles ont été condamnées par...
La Turquie a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme.
La France aussi.
Oui.
La France est en permanence condamnée.
Disons que la mesure des condamnations ou des violations n'est pas similaire. Nous avons, nous, comme organisation professionnelle, condamné également l'état de droit, enfin l'état d'urgence en France. Donc nous sommes parmi ceux qui condamnent une situation d'état d'urgence indéfinie en France. Mais les effets de cet état de droit en France sont nettement moins dramatiques pour les professionnels qui exercent le métier de journaliste que ce qu'on constate en Turquie. D'où, voilà, on n'a pas le sentiment d'avoir une différence de traitement. On a une différence de degré dans la dénonciation parce que la situation sur le terrain nous paraît plus grave en Turquie qu'en France. Ça ne nous a pas empêché de dénoncer aussi l'état d'urgence permanent décrété par le gouvernement français. Simplement, il semble, en tout cas, nous, on fonctionne à travers les témoignages que nous ramènent nos membres dans les pays. Et nos trois syndicats de journalistes en France ne nous font pas état de journalistes emprisonnés pour avoir tweeté. Vous voyez ? D'où notre réaction peut-être ciblée, particulière, historique, parce que je vous le dis, c'est la première fois dans l'histoire de nos trois organisations qu'on se sent le devoir de prendre la parole publiquement sur ces violations de l'état de droit. Et ça ne nous empêche pas de dénoncer par ailleurs d'autres violations de l'état de droit dans d'autres pays, mais avec des effets nettement moins graves en termes de violence, de situations de non-droit qui mènent des gens en prison. On n'a pas, vous savez, on a 152 journalistes en prison en Europe, 145 d'entre eux en Turquie. Les seuls autres pays où il y a des journalistes en prison en Europe, c'est l'Azerbaïdjan, la Russie, le Monténégro et la Macédoine. 5 ou 6 cas en Azerbaïdjan, 1 cas en Russie, 1 cas en Macédoine et 1 cas en Monténégro, et 145 cas en Turquie. Pour une organisation comme la FEJ, il est naturel de réagir et de cibler la Turquie dans une situation pareille, face à une situation pareille. Oui ?
Bonjour Yuma, Washington Post. Alors justement, puisque on voit tous ces exemples de violation d'état de droit en Turquie, qu'est-ce qui empêche maintenant de pouvoir annuler l'adhésion à l'Europe ?
Alors c'est une question que vous devriez poser à la Commission européenne. Personnellement, je m'interroge aussi. Depuis quelques mois, les rapports de progression, vous savez que la Commission européenne, par l'intermédiaire du commissaire à la politique de voisinage, Johannes Hahn, publie des rapports de progression sur notamment l'état des droits de l'homme dans les pays candidats à l'adhésion, et notamment la Turquie, et ces rapports sont constamment négatifs, et je dirais de plus en plus négatifs. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'à la Commission, on se demande pourquoi on continue à faire des rapports négatifs, de plus en plus négatifs, mais qu'on maintient le processus. D'autres vous diront qu'il vaut mieux maintenir la Turquie dans le processus parce qu'au moins ça permet à l'Union européenne d'avoir une certaine influence sur le gouvernement turc. Personnellement, je ne vois pas beaucoup d'influence actuellement sur le gouvernement turc. Et donc voilà. Mais je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas des organisations politiques, donc ce n'est pas à nous de... Cette question, il faut que vous la posiez à la Commission européenne. Pourquoi continuez-vous à négocier l'adhésion de la Turquie dans ces conditions-là? Peut-être que Mme Mogherini ou que M. Juncker ont des réponses convaincantes à vous donner. Personnellement, je tiens pas à me positionner là-dessus parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Je ne suis pas une organisation politique, je ne suis pas à leur place. Mais comme vous, je m'interroge. Oui ?
Est-ce que l'on ne pourrait pas qualifier votre attitude d'ingérente ?
Oui, mais vous savez, pourquoi pas ? Je considère qu'en tout cas, quand la démocratie est en danger, il y a même un devoir d'ingérence de la part d'organisations professionnelles, mais qui n'est pas une ingérence ni militaire ni politique. Nous, on va pas débarquer avec des fusils et des armes à Istanbul ou à Ankara. On n'a aucun moyen de faire pression sur l'AKP. Par contre, en tant qu'organisation représentative d'une série de professions qui sont aujourd'hui en danger en Turquie, il est de notre devoir de... Donc, on peut appeler ça de l'ingérence, pourquoi pas. Moi, je suis assez fier d'être accusé d'ingérence quand il s'agit de défendre des professionnels qui font leur métier, qui respectent le droit, mais qui se retrouvent quand même en prison juste pour avoir fait leur métier. Donc, c'est pas une accusation qui me... qui m'effraie ou qui me... maintenant, ce n'est pas une ingérence. On n'a aucun... À part notre pouvoir symbolique de pouvoir à un moment donné crier, dénoncer une situation, je veux dire, on n'a pas de pouvoir d'ingérence économique, financière, politique ou armée, hein, pour prendre les cas les plus extrêmes. Donc, en termes de droit, je ne vois pas ce qui nous empêcherait. Je pense même qu'au contraire, on pourrait nous reprocher, à nous, de ne rien dire, de nous taire sur la situation en Turquie. Donc je pense qu'on fait juste notre devoir. Certains y verront peut-être une ingérence. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, juridiquement, sur le plan international, rien n'empêche la FEJ, le Conseil européen des barreaux et l'Association européenne des magistrats de dire tout haut ce qu'elles pensent. Et de dénoncer ce gouvernement comme elle serait prête à dénoncer tout autre gouvernement en Europe qui aurait les mêmes attitudes. D'autres questions ou commentaires ? Oui ?
Quels sont les moyens que vous pensez que l'on pourrait mettre en œuvre pour appliquer les résolutions que vous demandez ?
Alors, de nouveau, c'est plus une question qui s'adresse aux acteurs politiques. Nous ne sommes pas... je constate que dans certains dossiers, l'Union européenne a pris des sanctions. Par exemple, des sanctions économiques contre la Russie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des sanctions contre la Turquie. Hein. Ça, c'est la responsabilité des décideurs politiques, de peser le pour et le contre. Il se trouve que l'Europe est un des clients principaux de la Turquie, et la Turquie est un des principaux clients aussi de l'Europe. Donc il y a des relations économiques étroites. Il pourrait y avoir là un moyen de pression sur le gouvernement turc. Mais de nouveau, ce ne sont pas nos organisations qui vont donner ce type de... qui vont prendre ce type d'attitude. Si vous lisez bien notre déclaration, on ne demande pas ça. On dit simplement que certains ont des leviers, des acteurs politiques, ont des leviers qu'ils pourraient activer et qu'ils n'activent pas. Pour le moment, personne ne bouge. Pour le moment, c'est la passivité générale par rapport à la détérioration de la situation en Turquie. La Turquie qui est vraiment aux portes de l'Union européenne, il faut le rappeler, qui est le membre principal de l'OTAN en termes de forces armées. Donc je veux dire, on a des liens politiques, économiques, financiers qui devraient permettre au gouvernement européen, aux organisations intergouvernementales basées en Europe, d'agir. Et pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inaction totale, ce qu'on dénonce. On espère qu'elles agiront. Maintenant, ce n'est pas notre responsabilité de dire comment elles doivent agir, quelles mesures elles doivent prendre. Je constate juste que dans d'autres cas, quand il y a eu des soucis avec la Russie, bien, les Européens n'ont pas tardé à prendre des mesures concrètes. efficace, pas efficace, ça c'est une autre question, mais en tout cas il y a une réaction politique claire. Ici, ce qui nous désole, c'est la passivité totale face à ce danger pour la démocratie en Europe, à nos portes. J'ai l'impression qu'on ne se sent pas concerné par ce qui se passe, alors que ça se passe à nos portes et que ça peut avoir une influence sur la région. On a déjà connu ces dernières semaines des soubresauts antidémocratiques dans les pays des Balkans. Moi, je ne suis pas loin de penser que la situation en Turquie incite les ennemis de la démocratie, partout en Europe, à tenter peut-être le même genre de pratique. Et on le constate dans les Balkans, en Macédoine. Il y a quelques jours, vous le savez, les partisans de l'ancien parti au pouvoir, qui est aujourd'hui dans l'opposition, ont débarqué dans le Parlement et ont commencé à frapper l'opposition, l'ex-opposition qui venait de gagner les élections, et les journalistes. On a recueilli d'ailleurs le témoignage d'un collègue qui a été battu par ses opposants et qui, au moment où il a sorti sa carte de presse, a senti les coups devenir plus durs, plus forts sur lui. Voilà, c'est le genre d'attitude qui arrive déjà aujourd'hui en Macédoine, donc au cœur des Balkans, et on peut imaginer avec les tendances autoritaires que vivent certains autres pays européens, comme la Hongrie, comme la Pologne. Je parle ici d'États particulièrement liberticides à l'égard de la presse. On peut imaginer que l'exemple de la Turquie et le mutisme, finalement, de l'Europe par rapport à cet exemple, ça pourrait les inciter à aller plus loin, eux aussi. C'est ça notre crainte. C'est que la dégradation de l'état de droit en Turquie, qui laisse totalement passive l'Europe, eh bien finalement, d'autres États se disent, puisque on ne dit rien à la Turquie, pourquoi pas nous ? Il y a un danger de contagion qui nous inquiète. Vous savez, ces trois organisations représentent des professions qui, peu ou prou, sont les chiens de garde de la démocratie. Et c'est en ça que cette démarche commune des trois organisations est symbolique. C'est rare que ces organisations parlent d'une même voix. Je pense que si elles l'ont fait, c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience du danger auquel fait face aujourd'hui non pas seulement la Turquie, mais l'Europe dans son ensemble. Voilà, sur ce, merci de votre attention. Je vous incite à suivre, vous pourrez prendre connaissance de la déclaration totale, complète, que nous avons co-signée sur le site internet de nos trois organisations. Donc n'hésitez pas à aller chercher le texte, je dirais, in extenso de ces déclarations. Je vous remercie pour votre attention et pour l'écho que vous pourrez donner à cette conférence de presse. Merci à vous. Voilà, au boulot maintenant. Non, les journalistes n'applaudissent jamais. Jamais. Non. Ça me rappelle, on avait reçu, je ne sais plus quelle opposante connue.
Vous venez d'écouter un exercice qui s'adressait à des étudiants en journalisme et enregistré le 15 mai 2017 au département des sciences de l'information et de la communication de l'ULB. L'exercice était une conférence de presse basée sur des faits réels, conférence à l'issue de laquelle les étudiants avaient un temps imparti pour rédiger un article.
Tu crois que le recteur est la dernière partie du gros intestin ? Tu crois que le Monténégro est un club échangiste africain ? Tu crois que la reine Fabiola a le même toiletteur que son chien ? Pour tout savoir, Radio Campus
92.1.